Radiodiffusion française présente Le Bureau des rêves perdus, une émission de Louis Mollion, avec Étienne Bierry, Christiane Verdieu, pianiste, et Les rêves perdus de la Duchesse de la Rochefoucauld. Réalisation Albert Hiera.
Puisque ce soir nous avons la joie d'accueillir au Bureau des rêves perdus la Duchesse de la Rochefoucauld, nous voudrions dédier cette émission à son grand ami Paul Valéry, disparu si brutalement il y a déjà 10 ans. Poète, peintre, s'intéressant à tous les arts, à toutes les sciences, les rêves d'ennemis de la Rochefoucauld nous permettront de retrouver Einstein, Anna Noailles, Valéry, Lévi Durnaire, Claudel, Giraudoux, Léon-Paul Fargue et tous les familiers qui se retrouvent encore régulièrement dans les salons de son hôtel, place des États-Unis. La délicate musique de François de la Rochefoucauld, dont le dernier ballet vient d'être créé triomphalement à Cannes par la compagnie du marquis de Cuevas, enveloppera les rêves que, sans plus attendre, nous allons vous faire écouter.
Je crois qu'on peut faire un rapprochement entre l'expression « rêve perdu » et « temps perdu ». Et se dire que si le temps perdu, c'est du temps qui n'a pas été utilisé, un rêve perdu, c'est un rêve qui ne s'est pas réalisé. Maintenant, il faut attendre jusqu'à la fin de la vie des gens pour savoir si un rêve est tout à fait perdu, si un jour il ne se réalisera pas. Jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai eu le rêve d'être un peintre. Et puis, tout à coup, je me suis arrêtée d'utiliser les brosses et mes couleurs, jusqu'au jour où j'ai rencontré Paul Valéry, qui m'a dit « Vous savez, je peins, vous avez peint autrefois, nous pourrions peut-être faire nos portraits réciproquement. » Et ce rêve perdu s'est trouvé tout à coup réalisé. J'ai fait le portrait de Paul Valéry et de quelques autres de mes amis. Je ne sais pas si je retrouverai d'autres rêves que j'ai perdus jadis, comme des rêves scientifiques, par exemple. J'avais un très grand goût pour la science. En tout cas, un rêve perdu, c'est un livre aussi qui est perdu, qu'on n'a pas fait. Et au point de vue scientifique, une chose m'aurait beaucoup intéressée. C'eût été de faire un album qui aurait représenté la conception que les hommes, les savants, se sont fait depuis le début du monde sur la structure fine de la matière. Tout ce qu'un homme a pu imaginer se trouvait au centre d'un petit caillou, d'un atome quelconque. Les uns ont eu l'idée de tourbillons, d'anneaux, les autres en pensaient qu'il y avait autre chose à l'intérieur des choses, et aujourd'hui nous sommes arrivés aux noyaux et aux atomes. Je ne sais pas s'il y aurait lieu de faire cet album, peut-être qu'il est trop tard, mais enfin il serait amusant de constater que toujours les gens ont repris les mêmes idées à certains intervalles. On a pu relever, je crois, un certain nombre de rêves humains dans les romans, dans les journaux intimes, même peut-être dans les pièces de théâtre, comme le Faust de Goethe, puisque Faust avait beaucoup de rêves. Il voulait rester éternellement jeune, riche, beau. Et Paul Valéry lui-même avait été très frappé de voir que tous ces rêves humains que les hommes ont depuis le commencement du monde, par exemple d'aller plus vite, de se transporter très rapidement, on le voit dans des contes d'Orient, ont été peu à peu, dans une certaine mesure, naturellement, réalisés avec le progrès des générations qui sont succédées. Nous allons plus vite que le cerf, nous volons plus vite que l'oiseau, nous descendons maintenant dans le fond des mers, la voix se fait entendre à des milliers de kilomètres. Eh bien, tout ça, ce sont des rêves qu'on trouve dans les camps des mille et une nuits. Oui, je pense que tout le monde continue à rêver. Nous avons encore d'autres rêves, par exemple des voyages vers la Lune, vers les étoiles, dans l'espace sidéral. Peut-être que ces rêves se réaliseront un jour. Et puis alors, naturellement, le rêve de prolonger indéfiniment l'existence, nous avons gagné 15 ou 20 ans, on trouve que ce n'est pas suffisant. Je ne sais pas si on arriverait à remplir une vie de 2000 ans. Enfin, en tout cas, nous avons toujours ce désir de prolonger la vie et même d'immortalité. Envie de faire des voyages, de voir des choses rares, exceptionnelles. Personnellement, j'aime beaucoup visiter les laboratoires, apprendre des choses que d'autres ont découvertes. L'autre jour, je suis allée voir la pile atomique. Eh bien, tout de même, cela ouvre beaucoup de perspectives à l'esprit. Cela vous permet aussi de vivre dans votre temps. Et peut-être de prévoir un certain avenir, qui pour certaines personnes est assez noir. Si j'en crois par exemple Jean Rostand, qui a écrit ces jours-ci que les simples expériences atomiques étaient très dangereuses. Enfin, tout cela ouvre cependant les perspectives extraordinaires dont il est difficile de se les intéresser. Paulus Valerius, un petit qui vaut beaucoup, eh bien cela le caractérisait assez bien. C'était un homme qui n'était pas d'une taille très élevée. Il fumait éternellement des cigarettes. Un monocle était pendu au bout d'un fil avec lequel il jouait assez élégamment et sa démarche était particulière. Cet homme qui a écrit sur l'âme et la danse de si belles pages marchait un peu comme on danse, là pour son aspect purement physique. Ajouter à cela une grande volubilité, une facilité extraordinaire à s'exprimer, exprimant d'ailleurs toujours des idées fortes originales, dans des points de vue personnels surtout, qui venaient d'une disposition d'esprit assez particulière qu'on pourrait peut-être rapprocher de celle du maréchal Foch, qui disait toujours, vous vous en souvenez, de quoi s'agit-il? Et puis à Valéry, c'était un peu comme cela. Devant n'importe quoi, il disait, qu'est-ce que cette chose? Comment la définir? En somme, de quoi s'agit-il? Et cela apportait une originalité extrême dans sa pensée et dans ses propos. Il niait l'inspiration, moi je crois qu'il était très inspiré, mais enfin il s'opposait en cela à Claudel, puisque Claudel a même écrit dans un de ses livres « Un poème n'est pas une horloge » et certainement il visait Valéry qui trouvait que les vers devaient être fabriqués. Il opposait toujours la fabrication, la composition à l'inspiration. Certainement, il n'aurait pas pu écrire ce que Claudel m'a écrit à moi-même. L'inspiration existe et la muse, c'est la grâce. Il avait une idée tout à fait différente, mais enfin, je crois qu'il était cependant très inspiré. Les yeux des marins reflètent beaucoup d'horizon. Et il y avait chez Valéry un marin qui n'avait pas pu se réaliser. Je dirais qu'il y avait un marin perdu, puisque nous sommes dans les rêves perdus. Il n'avait pas suffisamment de connaissances mathématiques, son Et ses yeux n'étaient pas très bons, je crois, enfin pour diverses raisons. Son père s'était même opposé. Il me semble, il n'a pas pu être marin, mais au fond, il a toujours aimé la mer, la nage, les bateaux. Et il avait ce tempérament des gens qui regardent les océans et qui rêvent. Je l'ai bien connu pendant une quinzaine d'années, c'est-à-dire vers la fin de sa vie, mais elle est morte jeune. Elle s'est traitée elle-même dans un de ses derniers poèmes de moribonde enfantine. Elle avait gardé les grâces de l'enfant jusqu'à la fin, ce qui veut dire que même lorsqu'elle est morte à 58 ans, elle avait encore cette fraîcheur d'impression, ce pathétique de la jeunesse. Et en somme, quoi que je l'ai connue dans ces dernières années, j'ai connu cet enfant extraordinaire qui avait ébloui le monde lorsqu'elle avait à peine 15 ans, car ses poèmes ont été, elle a écrit d'une manière très précoce. Elle avait deux conversations, elle en avait une pour le public, elle faisait des morceaux très brillants, elle avait le sentiment du cocasse, elle avait des formules éblouissantes. Et puis, il y avait un autre être pour l'intimité qui était pathétique, qui aimait à répéter ce mot de Le Comte de Lille, qu'est-ce que tout ça qui n'est pas éternel. Le sentiment de la fin de la vie était très déchirant chez elle. Comme l'a dit François Mauriac, elle ne se consolait pas d'être une simple mortelle. Elle avait cependant des amis comme Anatole France qui lui disaient « On a de la peine à croire que vous n'êtes qu'une mortelle, mais enfin ». Elle l'était tout de même, elle s'en rendait compte et cela remplissait son cœur de détresse. L'inspiration nous fait échapper au monde concret, au monde qui nous entoure. Il n'y a pas seulement les astrologues qui tombent dans les puits, les poètes aussi s'échappent complètement du monde réel comme les mathématiciens. En somme, on pourrait dire qu'un poète suit un rêve, mais c'est un rêve tout de même assez ordonné. Ce n'est pas comme le rêve que nous faisons lorsque nous dormons et qui est si bizarre, je ne sais pas si... Vous vous souvenez de ce que Marcel Proust disait dans un du côté de chez Swam. Il explique qu'il commence à s'endormir et que tout à coup, une partie de son corps a certaines perceptions, que la rivalité de François Ier et de Charles Quint devient quelque chose de réel. Tout se mêle, se confond, si j'ose dire, on entend avec ses yeux, on voit avec ses oreilles. Le rêve nous bouleverse complètement, bouleverse nos sens. Alors, je crois que la poésie, tout de même, contient un certain ordre, des règles. Et on ne peut pas dire que la poésie soit tout à fait un rêve, comme celui du sommeil. C'est tout de même autre chose. Ce n'est pas un rêve dirigé pour soi-même, c'est un rêve qu'on essaye de diriger chez les autres, n'est-ce pas? Car au fond, un poème a pour objet de mettre celui qui le lit, qui l'entend, dans un certain état d'esprit, d'émotion. Mais le poète, celui qui fabrique le poème, ne doit pas être dans cet état d'émotion. Enfin, il faut toujours reprendre le mot de Gide, l'enthousiasme n'est pas un état d'esprit d'écrivain. Blanche, de papier blanc qui vous inspire, je ne sais pas, il me semble qu'il faut qu'il y ait déjà quelque chose d'écrit ou quelque chose de dessiné pour que le rêve prenne corps. Je crois au contraire que c'est une impression assez désagréable de se trouver devant une toile blanche. Et en général, l'attirail de la peinture m'a toujours rendue assez triste. Le fusain, l'habit de pain, même les bras, ses couleurs et le chevalet surtout. Je déteste le chevalet, j'ai toujours peint avec les toiles sur mes genoux. Je ne veux pas qu'on se prépare à faire de la peinture. J'aime que tout soit improvisé. Alors la belle toile blanche, non, vraiment, elle ne me dit rien. Ni la page blanche non plus. D'abord, on a toujours peur de ne pas pouvoir réussir un portrait. Ce sont surtout des portraits que j'ai essayé de faire. Et on se presse pour dessiner vite quelque chose sur la toile. Mais c'est une espèce d'angoisse. Et puis alors après, il y a un moment assez agréable où on sent que ça vient, comme on dit. Et puis alors après, il faudrait achever ce qu'on a fait. Mais comme dit Degas, il faut avoir la modestie de finir. Et cette modestie signifie qu'on ne finit pas très bien. On n'arrive jamais à faire exactement ce qu'on voudrait. Mais enfin, à partir d'un certain moment, on gâche les choses. Je me rappelle un jour, un de mes amis avait posé pour Jacques Blanche. Et je lui avais demandé combien de séances, tandis que je faisais assez modestement son portrait. Mais dit 25, 18 séances, ce portrait était magnifique. Et pendant les 7 autres séances, évidemment, il a gâché peu à peu ce portrait, qui est encore très bien, je dois dire. Le tableau est un peu comme un livre qu'on a terminé pendant 2 ou 3 jours, n'est-ce pas? On le regarde, on le relit, on s'en renourrit en quelque sorte. Et puis tout à coup, une espèce d'horreur vous saisit à l'égard de ce qu'on a fait. On ne peut plus le voir, on ne peut plus en entendre parler. On tourne la page, on retourne la toile. Et c'est autre chose qui commence en vous. J'ai toujours eu une très grande désaffection de tout ce que j'ai fait. Au bout de quelques jours, quitte peut-être à reprendre les choses beaucoup plus tard. Je crois d'ailleurs que cela est assez commun à tout le monde. Je me rappelle que Jean Giraudoux avait un peu, je crois, cette impression, et qu'il relisait ses œuvres chaque année, alors lorsqu'elle s'éloignait de lui, mais dans un sentiment très curieux qui était de retrouver, au fond, ce qui les avait inspirés. Il revoyait sa vie. Il ne relisait pas proprement parler son livre, il relisait entre les lignes ce qui lui était arrivé. Eh bien, je crois que c'est ce que nous faisons un peu tous quand nous regardons un tableau que nous avons fait ou un livre que nous avons écrit. C'est quelque chose de nous-mêmes qui est accroché à cela, qui nous intéresse, mais je crois que l'œuvre ne nous intéresse plus. La Valérie a toujours déploré de ne pas avoir tout l'attirail qui aurait convenu pour qu'il puisse faire vraiment de la peinture. Il n'était pas comme moi, il aurait voulu être bien installé, au contraire. Et je ne sais pas si vous avez été chez lui autrefois, mais son bureau était extrêmement encombré. Il y avait beaucoup de livres, il y en avait par terre, il y avait une machine à écrire. Il y avait aussi un très modeste attirail de peintre, quelques toiles. Et vraiment, dans ces conditions, n'était sans doute pas très facile de faire un grand tableau comme aurait pu en faire Rubens ou David. Mais enfin, ça n'a pas empêché Valérie de faire quantité de petites choses absolument charmantes et très difficiles à réussir, comme des aquarelles au lavis le matin, à 4 heures du matin, ou des vues de sa chambre. J'ai toujours trouvé extrêmement habile. Il avait tout de même un tour de main, s'il n'avait pas un tour de force. De 15 ans, on m'a trouvée un peu délicate et on a décidé que je ne continuerai pas à lire autant, je devrais prendre l'air, et on m'a envoyée dans un atelier où j'ai pris des leçons du maître Lévy Durmer, mais je me suis passionnée alors pour l'atelier, j'ai fini par y passer près de 8 heures par jour, ce qui n'était pas très raisonnable non plus. Mais au début, je n'étais pas contente, j'aurais préféré continuer mes études. Il s'est trouvé que j'ai rencontré un homme charmant, très artiste, celui que je viens de nommer, Lévy Durmer, qui nous a donné des leçons un peu scandaleuses, en nous apprenant la division du ton et une manière de dessiner très particulière, qui ne correspondait pas du tout à celle de M. Ingres, quand il venait corriger nos dessins, il nous disait toujours « Ah, le fil de fer de M. Ingres ». En réalité, il s'inspirait du chef-d'œuvre inconnu de Balzac, où il y a un vieux maître, Fraunhofer, qui essaye de faire le chef-d'œuvre inconnu, quelque chose de si beau, de si parfait, de si vaporeux, que finalement on ne voit plus rien sur la toile. Il y avait un peu de ça chez cet impressionniste exquis qui était Lévy Durmer, mais enfin on voyait tout de même des choses sur sa toile. Il y a 2 ou 3 ans, juste avant sa mort, il avait 80 ans passés, j'ai eu le plaisir de pouvoir l'aider à organiser une exposition qui a eu beaucoup de succès. On a revu les portraits de Cambon, de René Vivien, de Georges Rollenbach, et on a vu que c'était un maître. Pendant un certain nombre d'années, j'avais une très grande admiration pour Henri Poincaré. Il me semblait que c'était un savant extraordinaire et un des premiers qui ait mis en doute tout de même la valeur absolue de la science, qui a abordé l'ensemble du monde avec son intelligence merveilleuse et en même temps cette modestie qui me paraît devoir convenir à la créature humaine. Et puis alors après Henri Poincaré, ça a été naturellement Einstein, et puis alors toutes les autres découvertes qu'on a faites en physique mathématique qui m'ont passionné. Je crois qu'il y a eu une époque vraiment extraordinaire, il y a de cela environ 20 ans. Et ce n'est pas fini, mais la science d'il y a 20 ans était peut-être moins terrifiante que celle d'aujourd'hui. J'ai rencontré Einstein effectivement au moment où il est venu à Paris dans le milieu d'Émile Borel, de Painlevé, Langevin, et Einstein était excessivement gentil et simple. Certains de mes amis, bien plus forts que moi en mathématiques, sachant que j'aurais l'honneur et le grand plaisir de dîner à côté de lui, m'avaient prié de lui poser certaines questions sur la relativité. Et avant de nous mettre à table, j'ai dit à Einstein, vous savez, maître, j'ai une question à vous poser. Et à peine nous étions assis l'un à côté de l'autre, il s'est immédiatement tourné vers moi. Il m'a dit, votre question, votre question. J'ai posé ma question et il m'a répondu avec une précision absolue, une gentillesse extrême. Et puis alors après, je l'ai entendu qui se tournait vers son illustre voisine qui était Madame Curie et qui parlait science avec elle. C'était évidemment fort intéressant. Quand je l'ai connu, il avait peut-être une cinquantaine d'années. Il avait un visage très curieux, un teint transparent. On avait l'impression qu'il était comme éclairé de l'intérieur. Et puis il avait des cheveux prodigieux. D'ailleurs, c'est peut-être assez commun aux physiciens. Je me rappelle que mon ami Jean Perrin avait aussi une chevelure blanche, quasi électrique. Encore un dont j'ai fait le portrait, qui était un être absolument remarquable. Eh bien, Einstein aussi avait des cheveux très particuliers et des yeux étonnants, des yeux d'agate noire. Mais c'était un homme qui était rempli de charme. Je sais qu'il faisait un tour prodigieux avec son gilet, qui consistait à le retirer sans retirer son veston, mais il n'a pas fait ce tour devant moi, je n'ai pas entendu jouer du violon non plus, nous n'avons parlé que mathématiques. La science aujourd'hui ne peut plus s'offrir de modèles mécaniques de l'univers, c'est-à-dire des réductions en petites machines, en somme, du fonctionnement du cosmos. Et la science aujourd'hui, c'est en somme des chiffres seulement. Et il faut raisonner sur ces chiffres, il faut les combiner, il faut tirer des conclusions à la suite de certaines opérations. Mais au fond, nous ne voyons plus l'univers, nous sommes obligés de rêver sur des chiffres. Nous vivons dans l'abstrait. La science est une chose tout à fait abstraite aujourd'hui. Elle ne peut plus représenter l'univers tel qu'il est. Et par conséquent, les combinaisons de chiffres sont des combinaisons de rêves, en quelque sorte, puisqu'il n'y a rien de concret, de représentable derrière. L'espace, on voyage beaucoup dans le temps. Par exemple, si on va en Égypte, eh bien, on se trouve reporté à quelques milliers d'années en arrière en visitant toutes ces tombes des pharaons, les pyramides, en s'avançant dans le désert pour voir les obélisques, les colosses, tous ces temples merveilleux. En somme, voyager, c'est très souvent revenir de plusieurs milliers d'années en arrière. C'est un aspect du voyage. Maintenant, évidemment, il y a aussi le voyage dans les pays exotiques. Et je crois que chacun de nous a un peu un cœur exotique. Nous aimons les palmiers, les populations qui s'habillent de couleurs vives, les grands fleuves. J'ai subi la magie de l'Afrique noire, par exemple, ou de l'Amérique du Sud. Et cela correspond certainement à des rêves que nous faisons lorsque nous sommes enfants. Nous avons envie de connaître des pays qui ne ressemblent pas aux simples plaines de la Beauce que j'ai beaucoup arpentées. Étant enfant, nous voulons voir quelque chose de plus curieux, de plus mystérieux. Et les voyages qu'on fait plus tard comme conférencier satisfont au fond cet ancien rêve d'enfant. Ce n'est pas un rêve tout à fait perdu. Que les personnes qui écrivent ou qui font des sciences souvent sont très excitées par la musique. Je l'ai entendu dire par Paul Valéry ou bien par Maurice de Broglie. Mais alors je crois qu'au bout d'un certain temps, leur attention ne se fixe plus sur le morceau qu'ils entendent. Ils sont partis alors dans leurs propres rêves. Quant à moi, je ne sais pas encore exactement comment je jugerai la musique. C'est pour moi un mystère. On parle toujours de langage universel, mais quelquefois, en boutade, j'ajouterais que c'est un langage universel que personne ne comprend, au fond. La musique est une chose très mystérieuse qui est, en quelque sorte, rajoutée à l'intelligence. Je ne pourrais pas dire qu'elle fasse partie vraiment de l'esprit, de l'intelligence. C'est autre chose. Je vous le rappelle, pour moi, la musique reste très mystérieuse, comme tout le monde. J'aime en entendre, plutôt que d'en voir. Je n'aime pas énormément assister à un concert. Et c'est pas du tout la même chose, d'entendre de la musique et d'en voir. Je ne sais pas si tout le monde fait cette distinction. Quand on entend seulement de la musique, je crois qu'on parle davantage avec la mélodie. Et lorsque on la voit, on a l'esprit distrait par le jeu des musiciens, qui d'ailleurs est assez curieux à observer. Et puis par les personnes qui vous entourent, les spectateurs, la salle. Je crois que la musique devrait être uniquement entendue, mais je crois que les véritables mélomanes, au contraire, sont très passionnés, qu'ils regardent comment les pianistes jouent, les violonistes, le chef d'orchestre s'acquittent de leurs tâches. J'ai connu Reynaldo Hahn, qui était un être tout à fait fascinant lorsqu'il se mettait au piano et chantait avec sa voix si juste, ses jolies intonations et ses mélodies dont nous raffolions étant jeune fille. Il donnait l'impression d'une telle intelligence, n'est-ce pas? On se sentait un musicien avec lui, introduit au sein du mystère. Mais je connais quelques autres musiciens, Poulenc par exemple, dont j'ai entendu quelques jolies phrases musicales au milieu de cet intermezzo de Giraudoux, qui est une féerie extraordinaire. Giraudoux est arrivé à faire une pièce de théâtre prestigieuse, qui n'offense pas une seconde la morale, ce qui est vraiment une gageure, et tout de même, c'est une pièce pour grande personne. C'est bien Giraudoux, qui était aussi un être plein de charme et qui avait une facilité de travail absolument prodigieuse. Il avait généralement terminé deux heures d'écriture, si j'ose dire, avant de se rendre à ses occupations au Quai d'Orsay. Il écrivait sans rature et en somme, sa journée d'écrivain était déjà terminée à 9h quand commençait la journée du fonctionnaire. Et d'ailleurs, le fonctionnaire, très souvent, inspirait l'écrivain. Nous l'avons vu récemment dans cette pièce d'Intermezzo où il y a tant de choses amusantes sur l'administration. Tant de mots d'esprit, tant de choses qui sont encore valables. Je pense que le fait d'aller au théâtre suffit à prouver qu'on aime le rêve, car au fond, dès que le rideau est levé, on s'introduit dans d'autres existences, d'une manière quelquefois assez indiscrète, et on éprouve un sentiment curieux, on s'intéresse, on se passionne, si les choses qu'on voit se passer autour de soi, chez des amis, on les trouverait sans doute très désagréables, très regrettables, très pénibles. Et parce qu'on est au théâtre, tout cela revêt une extraordinaire magie. On est heureux, on passe un moment extrêmement agréable. Il est certain que le théâtre est comme un rêve très bien organisé dans lequel on s'installe. Et puis on quitte le théâtre avec un sentiment de satisfaction. Le personnage ayant comique un roman, je me sens plutôt le tempérament d'un poète ou d'un essayiste, même d'un moraliste. Je ne conçois pas très bien cette existence des personnages qui vivent dans le cerveau de l'écrivain. Cela doit exister puisque tout le monde en parle. Mais personnellement, je n'ai jamais eu l'impression d'être habité ainsi par des êtres qui demandent à agir de telle ou telle manière. D'ailleurs, mon sentiment sur le roman est assez particulier. J'ai l'impression qu'on n'a encore jamais véritablement décrit la vie. Les personnages des romans, qu'est-ce que c'est ? Des êtres logiques. Eh bien, dans la vie, c'est excessivement rare qu'on soit aussi systématique. Je crois que nous changeons bien davantage. Peut-être que Marcel Proust est le seul qui se soit véritablement approché de la conception de la vie, de la multiplicité des impressions, de tous les états différents où nous vivons. Parce que nous vivons tantôt dans la pleine conscience, tantôt dans des impressions, des sensations qui ne sont pas très précises. Et puis alors, toute espèce de choses nous troublent, des choses d'ordre, par exemple, de musique ou des rêves, des souvenirs. Enfin, je crois, bref, que la vie est beaucoup plus compliquée et que les romans, comme en faisait Balzac, par exemple, c'est le romancier type, ne correspondent pas à la vie, que ces personnages, ces acteurs qu'on met en scène sont des gens qui sont logiques depuis A jusqu'à Z, comme le père Grandet qui aimera toujours l'or, par exemple, ou telle autre personne qui sera toujours ambitieuse, ou une autre femme qui sera toujours coquette. Moi, je crois que la vie est vraiment plus diverse. Et puis surtout, nous changeons avec l'âge, avec les personnes que nous rencontrons, d'après les voyages, avec les maladies. Enfin, bref, je crois que le véritable romancier qui montrerait la créature humaine telle qu'elle est, n'est peut-être pas encore né. Intéressée au début de ma vie à la cause féminine. J'ai travaillé avec de remarquables collaboratrices d'ailleurs pour obtenir les droits politiques pour les femmes. Et cela est resté pendant très longtemps un rêve. Nous avions l'impression que c'était même un rêve perdu, que jamais il n'arriverait à se réaliser. Pendant des années avant la dernière guerre, nous avons lutté menant une lutte très courtoise et, si je puis dire, aussi intelligente que possible, puisque nous avions l'habitude, chaque année, de faire des conférences en très grand nombre et d'organiser des congrès où, chose exceptionnelle, des femmes, et non des hommes, présentaient les questions politiques, quelquefois les plus ardues, faisant des rapports, par exemple, sur le budget de l'État, ce qui n'a jamais été un sujet très facile, et réussissant très bien d'ailleurs, puisque ces séances étaient présidées par des hommes politiques ou des économistes qui nous donnaient en quelque sorte une bonne garantie
de l'excellence de nos travaux. Eh bien, ce rêve que nous avons cru perdu, peut-être vers les années 1938 et 39, s'est réalisé, puisque le général de Gaulle a décidé que les femmes françaises ne seraient pas inférieures aux femmes anglaises, aux femmes suédoises, aux femmes chinoises et aux femmes de tous les pays où la femme vote. Et qu'en avril 1945, les femmes ont pu se rendre aux urnes à Paris et dans les départements français. Ce qui ne veut pas dire que ce que toutes les femmes avaient rêvé en essayant d'atteindre ce but, le vote, que tous les rêves que les femmes avaient faits se soient réalisés. Non, certes, il y a encore beaucoup de choses à obtenir. La paix du monde, naturellement. Le droit à la vie, auquel je me suis beaucoup attachée, notamment pour les populations civiles en cas de guerre. Il me semble qu'on nous a donné beaucoup de droits. Depuis une centaine d'années, on a vu accorder le droit syndical, le droit de grève, le droit des retraites, toute espèce de droit très justifié. Mais au fond, quand on y réfléchit, si on n'a pas le droit à la vie, est-ce qu'on peut bénéficier, est-ce qu'on peut profiter des autres droits? Peut-être faudrait-il commencer dans le grand pacte des droits de l'homme que discute encore l'Organisation des Nations Unies, par proclamer le droit à la vie en regard de la menace de la guerre. Enfin, j'espère que c'est une chose qui un jour se réalisera et que ce rêve que je forme ne sera pas perdu, quoi qu'il peut sembler peut-être prématuré.
La radiodiffusion française vous a présenté Le Bureau des rêves perdus, une émission de Louis Mollion, avec Étienne Bierry, Christiane Verdieu, pianiste, et Les rêves perdus de la Duchesse de la Rochefoucauld. Assistant de production, Georges Arnal. Réalisation, Albert Hiera.